son des bulles sur RCN.
Bon bah bonjour à tous sur le son des bulles. Eh bien écoutez, oui, ça démarre. Putain, je suis. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos auditeurs de RCN, Radio Carignan 690.7. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Le Son des Bulles. Nous sommes ensemble pour une heure quasi pour parler, échanger de cette passion commune qui nous fait vibrer, qui fait parler de bande dessinée, bien sûr. Alors, pour en parler autour de cette table, bien sûr, tout, comme chaque fois, hein, nos chroniqueurs, aujourd'hui on est nombreux, hein, je tiens à le signaler, nous avons donc nos réguliers, hein, ou nos régulières.
C'est un peu de prostitution.
Francine, c'est un peu tendancieux. Hein, c'est tendancieux, ouais, Francine, Charles, Olivier, Françoise, Joris, Jean-Luc, bien sûr, qui est notre pilote de ligne aujourd'hui, Angèle, notre stagiaire, et bien sûr, notre invité, que je vais tout de suite nous présenter. Hein, bien, écoutez, je vais retrouver ça tout de suite immédiatement. Là, je vais se dire, mais c'est quoi ce.
Tu cherches alors, l'invité ou le papier?
Non, le papier qui parle de l'invité. Aujourd'hui, donc, nous accueillons avec plaisir. Monsieur Frédéric Boilet. Bonjour Monsieur Boilet.
On peut applaudir.
Bonjour. On peut applaudir la carrière. Merci de partager donc quelques instants avec nous. Donc vous êtes photographe, essayiste, auteur de bande dessinée, voyageur. Incroyable. Si je résume un peu votre parcours, c'est incroyable pour nos auditeurs. Alors très rapidement, je fais le laïus. L'école des Beaux-Arts en 83.
Ah, 78.
Bon oui,
ils en sortent. Ils en sortent en 83. Et c'était Nancy.
Hein. C'était Nancy. Il faut être fier de ça quand même. Puis l'aventure BD commence chez Bayard avec La Nuit des Archers. Bon, j'ai pas cité forcément tous vos titres, mais bon, il y en a beaucoup. Puis Glénat, deux albums.
Pas beaucoup finalement.
Pas beaucoup.
Ah oui, comparé à certains de mes amis dessinateurs, j'ai publié assez peu de livres sur toutes ces années.
Mais vous avez publié quand même.
Parce que, ah oui, ça je les ai publiés, mais...
C'est important ça.
J'ai mis du temps entre pas mal de livres et...
Il faut du temps pour faire des belles choses, je pense.
Mais on dira pourquoi il a pris du temps, parce que vraiment, quand j'explique comment il travaille, des gens, c'est...
Alors, j'enchaîne. Alors, 90, c'est un séjour au Japon où naîtra un album Love Hotel, l'odyssée tragicomique d'un Français au Japon. Hein. Benoît Peters co-écrit le scénario avec vous.
Oui.
L'album sort en 93, une suite prendra le compte, donc Tokyo au jardin. Un complément, une suite, sur l'année suivante. 95, je fais rapidement un résumé, comme ça on va pouvoir revenir en détail hein, sur les différents items. 95, vous fondez l'atelier des Vosges, si je ne me trompe pas.
Oui.
Hein, place des Vosges à Paris, avec des pointures quand même, Christophe Blain.
Oui,
David
sauf
B. C'est pas moi. Hein, David B, c'est un peu ça, les mêmes initiales, mais c'est pas moi quand même.
Emmanuel Guibert.
Johan Sfar, Tronchet. Emma Guibert, donc quand même, vous avez réuni du beau monde là quand même. Hein.
Ah, c'est pas moi qui les ai réunis, ils m'ont accepté dans leur... Moi je suis arrivé un tout petit peu après coup, mais l'atelier des Vosges, on l'a créé ensemble.
D'accord.
Mais avant, on était dans un autre atelier, et c'est un moment David B. qui a trouvé... Parce qu'on est commencé à être un peu à l'étroit, on était neuf. Il a trouvé cet espace incroyable, Place des Vosges, et voilà, on a tous déménagé là. Donc oui, on a créé tous ensemble l'atelier des Vosges, ce qui était quand même... assez drôle, et je me souviens, il fallait lui trouver un nom, alors tous les noms les plus improbables ont fusé, et moi je leur ai dit, écoutez, on est Place des Vosges, je suis Vosgien, on va appeler cet atelier Atelier des Vosges, et vous verrez, la semaine prochaine, on aura un article dans l'Est Républicain. Et ça a marché, on a eu notre article, c'était Jean-Paul.
Jean-Paul Diamant, c'est un copilage, ça a encore coûté des bières, cette histoire-là. Oui.
Alors que vous, 97, c'est à nouveau le Japon, vous vous installez cette fois-ci dans l'île, cette île lointaine, hein, vous nous abandonnez quelque part, vous partez loin.
C'était déchirant parce que j'étais bien avec mes amis à l'atelier des Vosges, mais voilà.
Vous incitez donc du coup des auteurs, des éditeurs français à essayer de coopérer sur divers projets. 2004-2008, des collections de mangas d'auteurs, Saka de Casterman.
Oui.
2005 également, l'ouvrage collectif Japon, toujours chez Casterman dans la collection Écriture. Et pour finalement peut-être en 2009 revenir dans les Vosges.
Oui, 2008.
Voilà. Donc là, j'ai brassé très rapidement.
Ah, c'est bien, c'est rapide.
Ah, c'est rapide, c'est efficace.
Eh ben, merci.
Merci. Merci, Frédéric. Non, on va quand même parler un petit peu maintenant en détail un peu de votre travail, votre œuvre. Donc, alors, on vous dit souvent que vous êtes auteur de manga, mais c'est pas vrai. Bon, à l'entrée, vous dites non, je ne suis pas auteur de manga, j'étais auteur de bande dessinée en France.
Oui, manga n'existe pas. Manga, c'est juste le mot japonais pour dire bande dessinée au Japon. Alors, quand j'étais au Japon et que je devais me présenter en japonais, ou quand on m'a adressé la parole, on disait mangaka, évidemment, et on parlait de manga. Mais en France, pour moi, ça n'a pas de sens. D'accord. Manga n'est pas un genre, pour moi. Enfin, en tout cas, pas ce genre qu'on imagine. La bande dessinée japonaise est tellement plus diverse, riche, variée que ce petit choses restrictives dans lesquelles on le met en France, et pas seulement en France d'ailleurs. Ah ouais. Donc là, on parle de manga français. Ça, ça me paraît quand même très étrange, mais il y a aussi le manga brésilien, il y a le manga turc, il y a le manga espagnol. C'est vraiment très, très bizarre. Hein. Et ça correspond juste, en fait, à un genre de qui fait partie de la BD japonaise, qui est ce qu'on appelle le shonen et le shoujo, grosso modo, c'est-à-dire la BD pour adolescents, adolescentes.
Prononce bien quand tu dis en japonais, parce que c'est... les oreilles sont...
De nombreuses années, vous parlez couramment le japonais.
Oui. Ça, bah, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que je le parlais toujours encore, puisque là, bon, ça fait maintenant 17 ans, peut-être même 18, que j'ai quitté le Japon.
Oui.
Et j'y suis retourné là, en septembre dernier. J'étais invité à Osaka à la remise de prix pour un concours international d'illustration dont j'avais participé au jury. Et j'ai été surpris de voir que ça revenait très...
On se souvient de vous, vous avez encore de nombreux amis là-bas, j'imagine.
Ah bah j'ai des amis, oui.
Ah, bien sûr.
Par contre, j'ai eu effectivement le plaisir de voir qu'à l'entrée, il y avait un petit étalage d'un libraire. Et il y avait, dans le peu de livres qui étaient là, deux livres que j'avais donc, notamment la version japonaise de Japon, le collectif,
d'accord,
qui était là.
Okay.
Et puis un livre de Benoît Peters et François Skuyten. Alors c'est pas moi qui l'avais lancé, ce livre, mais enfin il a été lancé dans la foulée des efforts que j'avais fait pour faire venir leurs œuvres au Japon.
D'accord. Alors, c'est vrai que dans les années 2000, c'est cette grosse arrivée massive en France des mangas.
À partir du milieu des années 90.
Là, il y a vraiment beaucoup de par rapport à aujourd'hui. Hein, Joris pourrait en parler un peu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est énorme. Hein, quand on rentre dans une librairie, la partie manga est devenue absolument fabuleuse. Les franco-belges diminuent, les comics, je ne vous en parle même pas. C'est-à-dire que le manga, aujourd'hui, a pris une énorme partie. Donc, vous êtes sur je vais peut-être un peu provoquer, mais un rejet du manga commercial plutôt vers un manga d'auteur. Alors, est-ce que vous nous expliquez un peu la différence? Qu'est-ce que vous...
Alors, rejet est un mot un petit peu fort.
C'est un peu fort, c'est vrai.
Mais c'est juste que ça ne m'intéresse pas. D'accord. Quand j'ai découvert le... Enfin, bon, écoutez, c'est pour dire les choses simplement. J'ai connu le Japon avant de connaître la bande dessinée japonaise. Mmh. C'est au Japon, sur place... Et dans toute son ampleur que j'ai pu appréhender la BD japonaise. D'abord sans parler un mot de japonais, puis en apprenant un peu le japonais, en allant dans les librairies. Et c'est ce qui m'avait fasciné dans cette bande dessinée japonaise, c'était toute sa diversité. Ouais. Enfin, il y a plusieurs choses qui m'avaient vraiment intéressé et fasciné. C'est la diversité, c'était le fait que beaucoup de bandes dessinées trouvaient leur source, parler du quotidien, enfin, c'était pas seulement des histoires d'aventures, de SF, etc. Ce qui était assez peu... Enfin, ce qui existait pratiquement pas à l'époque. Parce que là, moi, je vous parle d'il y a 40 ans. Hein, la première fois où j'ai découvert les BD japonaises, c'était en 86, à Nancy.
Une équipe de tournage, c'est ça,
voilà, une équipe de TV japonaise qui débarque chez moi. Bon, je ne vais pas vous raconter les circonstances, mais ça m'avait vraiment frappé. Ils avaient dans leur valise ces petits fascicules, tous. Hein, tout le monde, j'avais le sentiment que tout le monde lisait les bandes dessinées au Japon, alors qu'en France, ça restait quand même...
C'est un truc de fan.
Donc aussi bien le réalisateur que l'éclairagiste, que
tout le monde avait ça dans sa valise.
Et puis, donc ils avaient tous des bandes dessinées, là où nous on aurait eu des livres ou des choses comme ça. Ouais. Et puis ces bandes dessinées, je voyais que ça parlait du quotidien. Alors bien sûr à l'époque, 86, je ne parlais pas japonais, c'était mon premier contact. Mais ça m'avait tout de suite intéressé. Je crois d'ailleurs qu'il y avait parmi ces livres un livre de l'autrice Fumiko Takano. Je ne peux pas l'assurer, mais je ne serais pas surpris que ce soit l'un des livres que j'ai traduit après, 20 ans plus tard.
D'accord.
Le livre jaune, qui est un petit bijou dans la collection Sakka, il a fait partie de la première fournée des livres traduits dans la collection Sakka. Ce qui m'avait frappé, c'était d'un côté le dessin, qui n'était pas du tout celui qu'on imagine, hein, shoujo, les grands yeux, etc. Là, c'était vraiment un dessin... C'était japonais, mais c'était pas dans ces stéréotypes graphiques-là.
Ouais,
non, pas réaliste. C'est un dessin, Takano Fumiko, c'est un dessin assez humoristique, mais très gracieux.
D'accord.
Et puis, ce qui m'avait frappé aussi, c'était la narration. Bien sûr, je lisais pas le japonais, mais je voyais la fluidité des images. Et puis, donc, le quotidien. Ça parlait d'une famille.
C'est ce qui va rester qui vous impressionne dans votre travail.
C'est-à-dire, le quotidien, ça s'est précisé au fil des années, mais moi, c'est toujours ce qui m'a intéressé, les gens. Aujourd'hui.
D'accord.
Alors, il n'y avait pas ça dans la BD franco-belge.
Il n'y avait pas ça, effectivement. Donc, l'oiselle, etc.
C'est venu plus tard, dans les années 90, avec des éditeurs alternatifs comme l'association Ego Comics. Et puis maintenant, le quotidien a trouvé sa place dans la BD franco-belge. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'équivalent, ou très peu d'équivalent dans la BD franco-belge.
D'accord.
Donc voilà ce qui m'a amené à m'intéresser à la BD japonaise.
Alors on parle un peu dans vos BD de manga nouvelle vague, un peu comme un hommage au cinéma français de la nouvelle vague, dont rejeter l'imaginaire en racontant, en appliquant des histoires plus réalistes. Effectivement, ça rejoint un peu ce dont vous nous parlez.
Manga nouvelle vague, c'est mon éditeur japonais qui, au moment de la sortie en 1999 de mon deuxième livre traduit au Japon, Demi-tour, a collé ce terme, parce qu'il y avait au Japon à l'époque, comme il y avait en France, respectivement les mêmes stéréotypes. Des stéréotypes, pas les mêmes. Donc, les stéréotypes sur la BD japonaise, c'était que c'était mal dessiné, c'était destiné aux enfants, c'était des grands yeux,
etc.
Le public était très cliché. Et pour la BD franco-belge, l'idée, c'était bien dessiné, mais que c'était ennuyeux, que c'était... Donc, comme c'était pas... Ce qu'il a voulu exprimer par là, c'est que c'était pas de la... C'était une bande dessinée, bien sûr, mais ça correspondait pas à ces clichés-là. Donc, il a eu cette idée de dire que c'est une bande dessinée comme le cinéma français.
D'accord, ok, donc, très bien.
D'où
manga nouvelle vague.
Ouais, cette idée, et qui a été ensuite raccourci en nouvelle manga.
Voilà.
La manga, bon, c'est un vieux débat qui est maintenant perdu de toute façon pour ce qui. À l'origine, historiquement, le mot était au féminin. Manga était employé par les Japonais francophones et par les Français nippophones, majoritairement au féminin, depuis le XVIIIe siècle et Edmond de Goncourt. Dans les échanges directs entre Japon et France, le mot était plutôt employé au féminin. Donc, quand j'ai découvert, moi, la BD japonaise dans les valises de cette équipe de télévision, le traducteur, il parlait de la manga, quand il parlait en français.
Okay. Hein.
Ouais. Et puis après, par la suite, quand j'ai collaboré avec des éditeurs japonais au début des années 90, c'était majoritairement la manga qui était employée, jusqu'à ce que je revienne une première fois en France, en 94, où là a commencé le boom du manga en France. Et je me souviens très bien ces émissions pour jeunes qui parlaient du manga, et pire encore, des mangas. Et une sonorisation américaine qui n'a de sens ni en japonais ni en français. Donc le terme au masculin est en fait venu des librairies d'import de comics.
Ouais.
Et donc c'est cette jeunesse française qui commençait à devenir fan, mais qui ne parlait pas japonais, qui n'a jamais mis un pied au Japon, et qui se contentait de ce qui venait.
On les abreuvait
via les États-Unis, des bandes dessinées japonaises traduites en anglais. Et donc, eux, ils ont plus naturellement parlé du manga.
Voilà. Oui. Au niveau de la traduction, hein, je ne sais pas, Joris peut en parler. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de traducteurs bénévoles aussi qui traduisaient les mangas dans les premiers temps. Ils ne traduisaient pas toujours très bien, d'ailleurs, les premiers mangas.
Là, ce n'est pas un problème de traduction, puisque de toute façon, c'est un problème quand d'une langue étrangère... qui n'a pas de féminin et de masculin, arrive un mot dans la langue française, que ce soit le japonais ou une autre langue, il faut faire un choix. Alors, il semblerait que linguistiquement, on opte pour le masculin. Bon. Mais il y a des tas d'exemples différents.
Ça change.
Et de toute façon, historiquement, il avait été employé au féminin. Donc, dans les années 70, l'un des premiers qui s'est intéressé à la BD japonaise, Jacques Lalose, à Kyoto, a traduit à la main, en collant dans les livres les traductions en français sur du papier et de la colle, les livres de Tezuka Osamu, qu'il a offert à la bibliothèque de l'Institut franco-japonais de Kyoto. Et lui aussi disait la manga. Et quand je suis arrivé, donc... la première fois au Japon, j'ai été accueilli par une structure, Kodansha, et des Français qui travaillaient là. Tout le monde parlait de manga au féminin.
Enfin. Très bien, très bien.
Mais le roman de renard à l'origine, dans la littérature française, il n'y a pas besoin que ça vienne d'ailleurs, c'était une renarde.
Ah bon ?
Le départ, c'était une renarde qu'on a transformée, comme elle avait plein d'exploits et tout, qu'on a mis en homme.
Non, la renarde, c'est Hermeline. Tant parce que le roman de renard s'adresse à un spécialiste. Donc, que j'ai traduit en japonais, justement, le roman de renard. Non, il y a... Donc, le roman de renard, c'est un renard qui a une saloperie et qui trompe le loup en faisant...
Au départ, c'était une renarde.
Et donc, la renarde, c'est Hermeline, qui est vraiment le... La femme parfaite. Voilà.
Ah, bon. C'est moi. Alors
je vais revenir un petit peu. Vous avez peut-être cette faculté d'avoir mis en valeur les artistes japonais. Alors, notamment un nom qui me revient, c'est monsieur Jiro Taniguchi.
Alors, Jiro Taniguchi.
Excusez-moi pour l'accent, excusez-moi.
Je ne comprends pas.
Alors, est-ce que vous pouvez me parler de cette personne?
Alors, Jiro Taniguchi, c'était un des rares auteurs de bande dessinée au Japon qui s'intéressait à la BD franco-belge. Alors moi, je l'ai rencontré tout à fait incidemment une première fois à Angoulême, au Festival d'Angoulême en 1991, au moment où je cherchais des financements, des aides pour aller moi-même m'installer là-bas, durablement au Japon, un an et demi, pour faire mon livre qui s'appelle Tokyo et mon jardin, donc qui raconte l'histoire d'un Français installé à Tokyo.
Alors, comment que ça se passe?
Donc il fallait que j'aille vivre à Tokyo.
Comment ça se passe si un jeune auteur aujourd'hui se dit, tiens, moi je vais faire du manga au Japon?
Non, comment, déjà c'est mal barré.
Oh purée, c'est pas possible.
On ne fait pas du manga au Japon. On peut faire de la bande dessinée au Japon, mais pas du manga.
Quand tu lis Love Hotel, le premier de son premier rapport avec le Japon, ça ne te donne pas du tout envie d'aller au Japon. T'as pas été subventionné par le ministère du tourisme du Japon. Parce que tu dis ça, tu dis, oh là, ça craint.
Je dis un mot sur ça, on a le temps. Parce que donc, quand je suis arrivé, donc voilà, j'ai voulu raconter, je ne vais pas vous raconter comment, pourquoi, ça aurait été trop long.
Tu crois vraiment? Oui, oui.
Alors, je voulais vraiment partir à l'étranger. Et pour moi, le Japon, pour tout un tas de raisons, mais aussi parce que ça me semblait le plus loin, le plus incompréhensible, le plus difficile, le plus cher, je me suis dit, ma première destination, ça sera le Japon. Si j'arrive à faire quelque chose là-bas, après, j'irai n'importe où ailleurs. Et donc, effectivement, c'était très cher à l'époque. 1990, le billet d'avion, c'était 3 mois de revenus pour moi.
Oui,
parce qu'aujourd'hui, si on s'y prend bien, pour 600 euros, on a un aller-retour. Le niveau de vie au Japon, c'était 2,5 fois celui en France. Enfin, bref.
D'accord.
Donc, c'était vraiment déjà un montage financier extraordinaire. Et puis, alors, je me disais, sur place, je vais être complètement paumé. Je vais rien comprendre. Ça me semblait vraiment être insurmontable. Alors en fait, ça a été beaucoup plus facile que prévu. Je me suis tout de suite senti chez moi. Bien sûr, j'étais déboussolé quand j'ai mis les premiers pas sur ce sol japonais, mais en même temps, c'était un pays très accueillant. Et donc, en fait, j'ai passé un séjour vraiment extraordinaire, 6 semaines, 6 premières semaines, donc avec différents financements, une aide du ministère de la Culture, un sponsor des casques de moto Shoei.
Ah, c'est pour ça qu'il existe encore.
J'espère, parce que c'est vraiment un grand inventeur, monsieur Etalo Kamata, je crois, le PDG qui a inventé cette texture indestructible pour les casques. Et donc, j'ai passé 6 semaines d'émerveillement, d'éblouissement, et vraiment, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de stéréotypes sur le Japon négatifs. Dans les années 80, on déroulait, parce que le Japon était l'ennemi économique des États-Unis. Et donc, on avait, comme on a aujourd'hui au sujet de la Chine, que les mauvaises infos qui arrivaient pour nous expliquer que, bien sûr, économiquement, ils sont les plus forts. Mais regardez, ils vivent dans des cages à lapins.
Détériorer l'image.
Voilà. Et donc, en fait, c'est un tout autre Japon que j'ai découvert, qui était vraiment enthousiasmant sous tous les aspects, la cuisine... les femmes.
On mange bien là-bas.
Bon, bref. Et un peu malgré nous, en fait, on a fait une histoire, Love Hotel, avec Benoît Peters. Les gens qui ont lu ce livre, même s'ils l'avaient aimé, ils disaient à la fin, bon, ça donne pas envie d'aller au Japon. Alors ça, on n'avait pas trop maîtrisé, parce que moi, j'avais vraiment aimé mon séjour au Japon. Mais on met notre personnage dans de telles situations. Il lui arrive tellement de bricoles. Oui. Voilà. Et puis, c'est aussi un dessin noir et blanc très, très cassant, qui est peut-être la dernière fois où j'ai dessiné dans le sillage de la BD franco-belge à suivre. Après, j'ai éclairci mon dessin.
D'accord.
Mais donc... au final, notre livre ne donnait pas envie d'aller au Japon. Alors je me suis dit, là, on a raté quelque chose.
À l'office du tourisme, on ne trouvait pas, quoi.
il faut qu'on répare un peu ça. Donc on va faire un complément. On va faire cette fois un livre qui donne envie d'aller au Japon.
D'accord.
Tokyo et mon jardin. Et donc c'est pour ça que cette fois, on a pris le même personnage. Mais cette fois, il ne débarque pas. Il vit au Japon. Il parle japonais.
Il s'est inséré.
Il est intégré. Et donc, il fallait que j'aille moi-même... vivre les expériences au Japon, m'intégrer par les Japonais pendant un an et demi, en 93-94. Et là, je pense qu'on a réussi notre coup, puisque... que le livre soit réussi ou pas, c'est pas la question, mais je me souviens que les gens, les lecteurs disaient, alors voilà, ça donne envie.
Ça donne envie d'y aller, ouais, d'accord, ok. Mais vous aviez une première vision un peu crue, comme ça, puis vous l'aviez retraduit finalement à votre façon, donc c'est peut-être une vision vraie, enfin, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose forcément de... d'assez juste dans votre vision quand même dans ce premier bout.
J'avoue que je ne comprends pas bien.
Vous dites, vous êtes plutôt sur le réalisme, etc. Donc, effectivement, c'était.
Est-ce que vous trouvez que le réalisme est cru?
Bah, ça peut être cru. C'est pas cru, alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas.
Ça dépend jusqu'où on va dans le réalisme.
Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on montre dedans?
Assez loin, des fois aussi, dans le réalisme. Alors, pas forcément sur les bandes dessinées, quoique. Ah, pardon. Mais aussi avec l'album 256 jours, je crois.
Ah, 286
jours. 286 jours, oui, pardon. Donc là, le réalisme est
valable. Ce qu'il faut que vous disiez, c'est que c'est un livre de photographie.
Oui, voilà, c'est ça. Exactement.
Donc, moi, j'ai toujours utilisé la photographie et la vidéo, surtout la vidéo, parce que je pouvais capturer en amont les images en mouvement. J'avais remarqué que quand je prenais des photos, bien souvent, j'utilisais la photographie pour appuyer mon dessin, j'utilisais la photographie ratée. C'est-à-dire celle où le modèle se frotte
le geste
naturel. Il a une manière de travailler qui est curieuse, il fait l'inverse des autres. C'est-à-dire que les autres prennent un storyboard, ils font un dessin au départ, et à partir de là, ils vont travailler. Et lui, il filme, il récupère toute une documentation iconographique pour chercher la photo, le mouvement qu'il va mettre dans ses dessins. Donc ça prend un temps.
La vidéo me permettait justement de saisir ces petits moments intercalaires. Quand j'avais travailler avec des modèles, hommes ou femmes, hein, peu importe, je laissais tourner la caméra. Alors, parfois, je leur demandais de jouer une scène si j'avais une idée un peu précise de la scène que je voulais dessiner, mais je savais très bien que ce que j'allais trouver, c'était dans les intervalles. Ils jouaient la scène, ce n'est pas des comédiens, ils font ce qu'ils peuvent, etc. Puis tout à coup, bon, ben, on a fini. Donc, la jeune fille prend la bouteille de thé, et puis elle boit du thé. Et là, je me dis, ça, c'est bien.
Le moment juste.
Alors, elle va tuer un moustique sur la porte, parce qu'il fait chaud, il est 3 heures de l'après-midi, c'est pile le moment de l'histoire, c'est pile la scène où on doit être. Elle a fermé, enfin, toutes ces petites choses naturelles. Et donc, le moustique, ça, c'est dans l'épinard de Kiko, devient un élément important, alors que je n'avais pas prévu du tout. Au moment où elle dit que, bon, ben, y a un rival et que commence à chauffer.
Donc vous êtes créatif, même il peut y avoir des choses d'actées, mais il peut y avoir des choses qui viennent se rajouter au gré des trucs.
Le réel a toujours un cran d'avance sur la fiction. On est toujours surpris par ce qui se passe dans la réalité. C'est toujours plus surprenant que tout ce qu'on a pu imaginer. Donc moi, toute ma vie d'artiste, j'ai œuvré. C'est-à-dire, j'ai essayé d'observer ce qui se passait, parce que de toute façon, c'était plus drôle, plus imaginatif et plus inattendu que tout ce que j'avais pu imaginer avant. Alors, par exemple, cette scène où elle annonce, on comprend qu'ils vont rompre parce qu'il y a un rival qui est arrivé. J'avais bien sûr imaginé 2-3 dialogues et tout, mais en fait, j'ai laissé le modèle. Voilà, naturellement.
C'est inspirant, quoi, finalement.
Et au final, ça donne une scène beaucoup plus forte que ce que j'avais imaginé si je l'avais dessiné sans mettre la personne en situation, dans ce fauteuil-là, à ce moment-là, dans la chambre.
Il y a de très fortes contraintes, finalement. Des fois, la forte contrainte ne crée pas le contexte pour laisser s'exprimer des choses.
Ça, c'est encore autre chose. Au contraire, il faut des contraintes. Ouais. Les contraintes, ça permet, ça oblige à dépasser. Moi, je suis pour les contraintes, en sachant qu'il faut les absorber, les assumer et les dépasser. Alors, ça oblige là à aller au-delà. Ça, c'est encore une autre question sur la création des histoires. C'est bien parfois d'avoir une censure. Par exemple, si on la connaît, c'est un régal de la contourner, la censure, si on sait exactement de quoi il s'agit.
Surtout dans les dessins de presse notamment, enfin, c'est des choses qui sont...
On va chercher un truc, on tourne autour, et puis finalement on arrive quand même à dire ce qu'on a voulu dire, mais c'est beaucoup plus, étonnant que s'il n'y avait pas eu de contraintes. Je ne sais pas si j'ai été clair.
J'ai une petite question parce que vous êtes aussi à l'aise à la photographie qu'au dessin, on va dire. Comment vous faites le choix de l'un ou l'autre des médiums pour exprimer ?
Si j'ai voulu devenir... C'était le dessin qui m'attirait quand j'étais tout petit. Hein. Je ne veux pas vous faire le truc, mais depuis 6 ans, je voulais devenir dessinateur de BD. Mais là, c'était vraiment par amour du dessin. Ensuite, quand j'ai commencé à devenir professionnel, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était l'histoire, le récit. Enfin, tout ce qu'il y a en amont, qu'on a un petit peu évoqué là, donc les repérages, les prises de vue, le rapport avec les modèles, avec les décors, avec les lieux, pour arriver donc à cette phase qui est celle du dessin, mais qui, petit à petit, j'avais l'impression, à tort, hein, mais que le dessin était un peu une mise au propre de tout ce qui avait été si enthousiasmant avant, c'est-à-dire donc ces repérages, faire l'histoire, seul ou avec un co-scénariste comme Benoît Peters. Et donc, j'ai beaucoup utilisé la photographie, j'ai beaucoup utilisé la vidéo, et donc 286 jours, ça a été l'occasion, là, cette fois-ci, de ne même plus dessiner, c'est-à-dire d'essayer d'être encore au plus proche de la réalité, dans l'occurrence de cette histoire d'amour qui est vécue au quotidien, 286 jours. Et pourquoi la photo? Parce que ma ça partenaire dans ça, ce finalement. Livre, c'était son médium. C'était son média, pardon. Enfin bref, en tout cas, c'était son truc, la photographie. Donc je me suis mis un peu, moi, au service de ça. Et... Alors il y a un petit peu de dessin, il y a un ou deux petits dessins, mais pour le reste, oui, c'est essentiellement la photographie. Alors après, vous dire, est-ce que je suis à l'aise en photographie, ça j'en sais rien.
Du sujet, du projet à faire.
Ça, ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, j'aborde la photographie un peu comme j'ai abordé le dessin, hein, c'est-à-dire... en essayant d'être au plus près, sans artifice, sans filtre, parfois même sans cadrer. C'est-à-dire, on prend les photos comme ça, et puis on en prend 20. Et dans les 20, il y en a forcément une qui est réussie, voilà, et qui n'est pas prévue, parce qu'elle a été prise presque au hasard. Ça, c'est ça qui était intéressant pour moi dans la photographie. Cela dit, alors, 286 jours, c'est un livre, c'est un récit photographique. Mais ce n'est pas un livre de photographe.
D'accord. Oui, il y a une histoire.
Parce que le but, ce n'est pas la photographie, c'est le récit. C'est simplement, au lieu d'être en dessin, cette fois, il est en photographie. Oui. Voilà. C'est un récit en image.
Et la réalisation de films, etc., donc c'est presque l'étape supplémentaire.
Le dessin, oui, mais je n'ai pas eu le temps. Et puis maintenant, j'ai 66 ans, c'est trop tard.
Mais on peut toujours faire des films.
c'est vrai que la réalisation... Non, je crois que je n'aurais jamais pu faire des films parce que... si vous voulez, le ciné... là, l'avantage de tout ce que j'ai fait, c'est que je pouvais le faire, alors je vais dire tout seul, c'est faux, puisque par exemple, j'ai collaboré avec Benoît Peters, puisque par exemple, j'avais toujours besoin, moi, de mes modèles, j'ai jamais pu faire mes livres seul. Si j'avais pas eu mes modèles, Yukiko, Mariko, Catherine, Dominique Noguez, etc., etc., si des gens m'avaient pas aidé, jamais j'aurais pu faire mes livres seul. Mais en même temps, voilà, c'est quelque chose, une fois qu'on a tous les documents, tout le matériau, que je peux faire seul dans mon coin. Alors que réalisateur de cinéma, il faut le sens du collectif, il faut de la diplomatie, il faut indépendamment du talent, hein, mais savoir tenir compte de tout le monde, des uns et des autres, des comédiens, de l'éclairagiste, du preneur de son, pour faire un film, ça je crois très sincèrement que j'en aurais été incapable.
C'était un autre métier, effectivement. Est-ce que autour de la table, des chroniqueurs veulent poser quelques questions?
Moi j'ai vu qu'il y avait 5 planches, il y a 5 planches qui vous appartiennent, qui sont à la médiathèque Stanislas de Nancy, ça?
Oui, oui.
Elles y sont toujours?
Ah bah oui, oui.
Ah oui,
oui.
Ah bah
donc
oui.
C'est des planches extraites de 3615 Alexia, j'ai fait le leg... ou le don, je ne sais plus. Ah non, ils m'en ont acheté une partie, oui. Ils m'en ont acheté 4. Voilà. Donc 3615 Alexia, qui est mon premier livre, autobiographique, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire.
La nuit des archers, dont je parlais tout à l'heure.
Non, mais c'est mon premier livre qui sort de la veine commerciale.
Voilà. Voilà. Chez Bayard.
Oui.
Ah donc elles y sont toujours, donc on peut aller les voir, les originaux.
Donc ça les intéressait parce que ça montre Nancy dans les années 80, puisque déjà je faisais des repérages en photographie, donc je leur ai donné les planches qui font, où on voit l'avenue du général Leclerc à l'époque, là où j'avais mon appartement, et je leur ai donné le matériel photographique qui va avec.
Ah, je me demandais pourquoi.
Enfin, ils l'ont acheté, hein, J'ai donné quelques éléments supplémentaires.
Mais oui, des jeunes qui vont voir ce truc-là vont se demander qu'est-ce que c'est que le Minitel. C'est vraiment un truc.
C'est quelque chose qui s'est inscrit sur la durée du coup. Minitel avait disparu.
Et en discutant avec toi, tu me dis la rupture, c'est quand tu as fait le rayon vert.
Oui.
Parce que c'est là que tu as fait le premier scénario.
Ben voilà, j'étais dans la veine.
Tu t'es lancé dans le texte. Alors ça, c'est introuvable, parce que l'éditeur a fait faillite une fois qu'il t'a embauché, c'est ce que j'ai compris.
Pas de lien de cause à effet.
Mon Dieu, préservez-moi de mes ennemis.
Non, le livre est sorti, et effectivement, trois mois après, l'éditeur faisait faillite, les stocks étaient saisis par huissier. Alors après, ça a été, c'est ressorti dans les soldes. Et, mais il y a une nouvelle édition qui est tout à fait, tu ne l'as pas ici, mais une nouvelle édition tout, qui est parue dans les années 2010 aux Impressions Nouvelles. Qui,
ouais.
qui
est dans donc là, tu te lances dans le scénario, tu romps avec le système DD.
Comme je vous l'ai dit, je voulais devenir dessinateur de BD. Donc au début, j'avais vu Les Passagers du Vent. Il y avait des choses que, dans la bande dessinée commerciale qui me semblaient réussies, intéressantes. Et je me suis dit, peut-être je peux faire ça. Mais je me suis rendu compte, en entrant dans cette veine-là, que ce n'était pas pour moi. Moi, j'étais plus... En fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le cinéma, au sens comme nourriture. Et je ne retrouvais pas dans les bandes dessinées l'émotion que je trouvais devant les films.
D'accord.
Et donc, par contre, j'ai trouvé dans la BD japonaise, justement. C'est ça aussi qui m'avait intéressé, c'est que la BD japonaise sait faire verser des larmes à ses lecteurs.
Alors, est-ce
comme quand on est pris dans un spectacle total, comme au cinéma, alors que la BD franco-belge est beaucoup plus elliptique et froide. Et maintenant, les choses ont changé, mais c'est très difficile de verser une larme d'émotion en lisant une bande dessinée. Enfin, je ne sais pas si ça vous
est. Est-ce que ça vient de la taille aussi, peut-être du nombre de pages, pour prendre le temps de développer les choses, etc.
Dans les BD japonaises, non seulement on parle des hommes et des femmes, du quotidien, mais aussi on prend le temps.
Ouais.
Donc là, ce qui m'a vraiment intéressé dans la BD japonaise et dont j'ai essayé de tirer parti, de m'inspirer, c'est la narration, prendre le temps d'exprimer les émotions, les petits détails, éviter les ellipses inutiles, prendre son temps. Et donc, pour arriver à décrire une sensation, un sentiment sur 2-3 pages, par exemple, pourquoi pas.
Effectivement, sur le franco-belge, on est souvent des formats de 44 pages, 50 pages.
Bah,
c'est court, c'est rapide à lire.
Ça a changé depuis, heureusement, mais à l'époque, c'était ça. On était condamné en tant qu'auteur de BD, aux séries.
Il fallait que ça rentre dedans, quoi.
De 46 pages, album couleur, 46 pages, 54 pages. Bon, bref, j'ai décidé de tenter ma chance dans un autre genre de bande dessinée, alors que j'étais parti là pour une carrière d'auteur de bande dessinée classique, historique. Mais je me suis rendu compte que finalement, c'était pas. J'avais d'autres ambitions, enfin, ou d'autres rêves, je ne sais pas comment dire. Et donc, oui, effectivement, je suis parti dans cette idée de tenter ma chance avec mon premier scénario sur une longue histoire. Le rayon vert, et c'est donc en réalité le premier livre que j'ai publié dont j'ai pas à rougir.
D'accord, ok. Bon, écoutez.
Mais t'as à rougir de rien, Frédéric.
Non, c'est un très beau parcours, magnifique, bravo. Merci pour toutes ces...
J'enlèverai ma chronique, c'est pas grave.
Ceci,
juste, je voulais savoir la rencontre avec Benoît Peeters, comment elle s'est réalisée.
Alors, donc, quand j'ai voulu... un peu sortir de cette veine commerciale qui me satisfaisait pas. Je n'avais pas le sentiment, est-ce que j'étais capable ou pas d'écrire un scénario sur une longue histoire. Donc je me suis dit, je vais m'adresser à ce qui me semble être le meilleur scénariste sur la place. Et pour moi, c'était Benoît Peeters. Donc je suis tout simplement allé le voir, c'est au moment où sortait La Fièvre d'Urbicande. Et c'était au Festival d'Angoulême. Et je suis allé les voir. J'ai posé la question à Benoît, est-ce qu'on ne collaborerait pas ensemble? Alors, comme Benoît n'est pas un scénariste à cumuler les collaborations avec des dessinateurs interchangeables, ça a pris un tout petit peu de temps, 5-6 ans, mais il m'a aidé sur Le Rayon Vert, il m'a aidé à travailler sur 3615 Alexia, et notre vraie collaboration a commencé, donc, 6 ans plus tard, sur un seul mot, Japon.
Ah, dis donc. On prenait le temps à l'époque.
C'est
vrai que
il a quand même dit tout simplement. Hein, je suis allé le voir tout simplement.
Non, mais des fois, ça se passe comme ça. Des fois, ça peut être juste. On ose et puis ça se passe.
Auparavant, je lui montrais des scénarios aboutis. Alors, il me disait, mais Frédéric, pour Le Rayon Vert, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as déjà tout fait, c'est fini. Oui. Il m'a corrigé 2 fautes d'orthographe. Alors, moi, j'étais content. Il trouvait mon scénario réussi, mais ce n'était pas une collaboration. Après, pour 3615 Alexia, je lui ai amené des notes. Des croquis, des choses en amont. Et il m'a dit, mais écoute, Frédéric, je ne peux pas intervenir. Là, tout est là, tu as juste à le faire. Alors après, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée, Japon. On était dans le train, je m'en souviens, puis il m'a dit, d'accord.
Le discours d'enfer. Il aurait fallu filmer la scène, sur le moment, il fallait une caméra.
Parle-nous quand même de la gare de Dijon. Ça, c'est bien.
De la gare de Dijon.
Oui, donc après le Japon... avec Benoît, je me souvenais que Benoît avait une envie de faire une histoire qui soit un huis clos. Et donc, j'avais l'occasion, pour une histoire d'amour avec une Vénitienne, entre Nancy et Venise, de passer du temps dans les changements de train sur la place de la gare de Dijon en pleine nuit, pendant 3 heures, entre le train de Nancy qui descendait et celui qui arrivait de Paris. Et je m'étais dit, voilà, là, il y a un huis clos extraordinaire. C'est vraiment la place où il ne se passe rien, mais où il y a tout. Enfin, il me semblait, il y a deux restaurants, il y a des cinémas. Donc, j'en avais parlé à Benoît. Et lui, il m'a dit, alors c'était un peu plus long que Japon, tout simple. Hein. Mmh. Il m'a dit, oui, écoute, pourquoi pas, mais on va faire une unité de temps aussi. Ça va se passer le soir du résultat des présidentielles. On était en 1995, c'était Jospin, Chirac. Donc, on est allés tous les deux le soir du résultat des présidentielles sur la place de la gare de Dijon pour voir ce qui se passe. Et le lendemain, on avait notre scénario.
D'accord.
Le lendemain matin, tout était là. Il suffisait juste d'observer. Lui, il est descendu à l'hôtel de gauche. Je suis descendu à l'hôtel de droite. On est allé dans les deux restaurants. On a observé la liesse de la jeunesse qui avait voté pour Chirac. Et le lendemain, on avait notre histoire qui s'appelle Demi-tour, qui est la rencontre d'une jeune fille de 19 ans qui vote Chirac et d'un gars de 38 qui vote Jospin. Bon.
Que dire ?
Ça marche pas. Hein,
ça fonctionne pas.
Finalement, ça ne marche pas. Mais bon.
Ok. Ben, merci beaucoup, Frédéric. On va peut-être passer à la pause musicale, hein, si vous l'entendez bien. Bien sûr, vous êtes partie prenante sur l'émission. N'hésitez pas à intervenir quand vous voulez. Eh bien, c'est la pause musicale, les amis. Bon, allez, c'est parti.
Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important. J'ai insulté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave. J'en ai marre, mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, je n'y comprends rien. C'est ça qui me met en colère, 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 c'est ça qui me met en colère. On m'a crié dessus parce que j'ai senti une chaussette pour voir si elle était à moi, je n'y comprends rien. Mon père aussi me crie dessus. Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre. J'en ai marre des contraintes, le conditionnement tous les lundis, les échauffements de théâtre, ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre. J'aime pas qu'on me dise, il faut que tu dormes la nuit, il faut que ça s'arrête maintenant. Je n'aime pas non plus quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve. Quand il y a un anniversaire à l'Hippopotamus, ils mettent la musique fort. Si je commande des huîtres au restaurant et que le serveur me dit « Désolé monsieur, il n'y en a plus !» Quand les gens se moquent de moi dans les centres commerciaux et qu'ils disent « Ha ha, ha ha !» Regardez, il fait le fou, il s'excite. Il secoue des mains. Alors je prends mon portable. Je les prends en photo pour me venger, pour les emmerder. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. C'est ça qui me met en colère. 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 C'est ça...
18h-19h, le son des bulles sur RCN.
Bien, nous voici revenus après cette pause musicale très colérique.
Hein. Et c'est avec Francine que nous enchaînons, donc on reste finalement dans le thème, hein, le Japon.
Mais on va rester au Japon, bah, écoute, un peu. Et si, moi, ce qui me mettait en colère, et ce qui me met en colère, c'est les maisons d'édition qui actuellement connaissent de grandes difficultés, notamment les maisons d'édition indépendantes. Alors, plutôt que de parler justement de difficultés, on va aborder avec le sourire la création d'une nouvelle maison d'édition. La maison d'édition Morgan, donc, qui vient de voir le jour en janvier 2026 et qui a été créée par Sullivan Rouault, Thomas Aragon, Arthur Ignard et Victorine Gaillot au sein des éditions donc, du groupe Les Nouveaux Éditeurs et dont les deux premiers titres viennent de paraître en ce début d'année. Alors on va parler un petit peu de ces éditeurs qui ont fondé cette nouvelle édition. Alors déjà on a Sullivan Rouault, pardon, le fondateur et co-directeur éditorial, qui a également créé les librairies Tsodoku à Marseille et Toulon, ainsi que les collections Manjetsu et iComic chez Bragelonne, chez Hachette. Donc c'est quelqu'un qui est bien connu du milieu. Thomas Aragon, lui aussi, puisque c'est l'autre directeur éditorial, qu'il a débuté aux éditions Delcourt, avant de longtemps travailler chez Dargaud, puis au Seuil, et qui est également aussi l'éditeur de Sphar. Alors déjà, la profession de foi de Morgan, parce qu'une nouvelle maison d'édition, faut quand même proposer quelque chose de nouveau. Alors, en offrant les garanties d'un travail serein aux créatrices et créateurs, en nous efforçant de ne pas surproduire, en traitant artisanalement chaque ouvrage comme une œuvre unique, nous espérons faire de Morgan une garantie de qualité, de pluralité et un phare pour quiconque veut tout simplement lire une bonne bande dessinée. Amoureux de beaux livres, de papier, de direction artistique et des lieux où sont vendus et débattus les albums qui font l'actualité, nous nous engageons pour faire briller les albums que nous avons la responsabilité d'accompagner au quotidien et dans la durée. Alors l'aventure a commencé le mois dernier avec Train de nuit dans la Voie lactée d'Adrien Demont et est paru pas plus tard qu'hier le deuxième ouvrage Terre ou Lune de Jade Co. Et autant dire qu'au vu de ces deux magnifiques albums, eh bien les engagements sont tenus. Alors commençons par Train de nuit dans la Voie lactée. Le soir de la fête de la Voie lactée, alors que les enfants se préparent à célébrer l'événement, Giovanni, enfant solitaire, souvent en proie aux moqueries de ses camarades d'école, ayant pour seul ami Campanella, va effectuer son petit boulot à l'imprimerie afin de subvenir aux besoins de sa mère malade. Alors que près de la rivière se déroulent les derniers préparatifs de la fête, Giovanni s'éloigne sur la colline avoisinante et s'endort. Quand soudain...
Galaxy Express, à destination des étoiles. Départ minuit. Les voyageurs sont priés de monter à bord.
Curieux, il embarque à bord du train, sans se douter qu'il va visiter les confins de la galaxie en compagnie de son ami Campanella. Alors je n'en dirai pas plus sur l'histoire afin de conserver toute la magie de ce récit onirique, philosophique, fantastico-poétique, imprégné de spiritualité bouddhiste qui nous fait voyager entre rêves merveilleux et impermanence des choses. Alors comment est né cet album ? Tout a commencé par une tournée de concerts dessinés au Japon d'Adrien Demont, dessinateur plasticien, accompagné du musicien Takuma Shindo, qui lui a fait découvrir Train de nuit dans la Voie lactée, le roman éponyme, un classique de la littérature japonaise de Kinji Miyazawa, vous m'excuserez pour la prononciation Frédéric, hein, écrit en 1927 et publié en 1934. Alors qu'il se trouve en gare de Moriaka, Adrien Demont est traversé d'une fulgurance, il se doit d'adapter le récit en bande dessinée. Alors les amateurs de manga et d'anime, n'est-ce pas mon ami Joris, ne sont pas en terre inconnue puisque ce train mythique a inspiré Leiji Matsumoto pour Galaxy Express 999, série parue en 21 tomes aux éditions Kana, elle-même adaptée en anime par Jisaburo Suji en 113 épisodes de 24 minutes, diffusée dans le fameux Club Dorothée. Sans oublier Galaxy Express 999, le film culte parmi les fans d'animé japonaise, réalisé par Rintaro en 1979. Et puis ce fameux train fait aussi son apparition dans Le Voyage de Chihiro de Miyazaki. Alors, le traitement graphique prodigieux, atypique, lui vient tout droit de ses concerts dessinés. Alors, c'est fabuleux à voir. Hein. Il travaille debout, avec des grands gestes, tout à la craie, en projetant en négatif les dessins en cours sur un mur à l'aide d'un vidéoprojecteur. Ce qui fait que tout est inversé dans son travail. Les couleurs chaudes vont devenir bleutées. Et dès la première apparition du train, ocre et bleu vont venir dialoguer dans un noir profond. Quant aux personnages, ils empruntent leurs traits, eux, aux poupées Kokeshi. Alors, passons maintenant à Terre ou Lune. Alors là, attention, chef-d'œuvre complet. C'est le deuxième album de Jacques Co, jeune dessinatrice illustratrice diplômée au Gobelin, née en 1998, qui s'est fait connaître à travers son premier album, Zoc, paru en 2022 aux éditions d'Argo. Alors, le pitch de l'éditeur, et là, j'en dirai vraiment pas plus. Hein. Othello à bout se le répéter en boucle, l'acte qu'il vient de commettre est irréparable. Du haut de ses 7 ans, lui qui n'avait Dieu que pour les oiseaux et leurs promesses d'évasion, vient de tuer son père. Derrière cette tragédie familiale, de nombreux secrets enfouis, une enfance bafouée et l'ombre d'un héritage dont il ignore encore la portée. C'est par une petite plume que tout a commencé. Et je n'en dirai pas plus, si ce n'est que ça se passe également au Japon, pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte de cette histoire, ou plutôt de ces histoires, qui s'entremêlent avec maestria, narrativement et graphiquement, nous surprenant à chaque page en explorant les questions d'identité, d'aliénation et du prix des utopies. Alors, influencée en partie par Moebius, Zhao Dao, dessinatrice et illustratrice chinoise de sa génération connue pour son talent d'aquarelliste, ou Hayao Miyazaki, Jacques Co nous offre là près de 300 pages d'une intensité et d'une force narrative incroyable en couleurs directes réalisées à l'aquarelle, son médium favori, dans un univers entre science-fiction et poésie du monde naturel. 300 pages de pur régal, et ce n'est que la première partie d'une histoire prévue en 2 tomes. Enfin, pour terminer, bonne nouvelle pour nos porte-monnaies. Les 2 albums bénéficient d'un prix de lancement jusqu'au 29 avril. 22,90 € au lieu de 27,90 € pour Train de nuit dans la Voie lactée et 27,90 € au lieu de 32,90 € pour Terre et Lune. Donc, 2 albums à découvrir, ouais. Une maison d'édition à découvrir. Est vraiment prometteux.
Ok, bon, faut les aider. Ça, ils démarrent, du coup, j'imagine, faut y aller. Enfin, faut les aider, quoi. S'ils démarrent, faut vraiment essayer de mettre.
Oui, oh, mais ça marche déjà très, très fort. Okay, parce que, vu la qualité et de l'objet et des récits.
D'accord.
Ça marche déjà très, très fort.
Édition, c'est Morgan comme demain Morgan. Ou Morgan.
Oui, c'est Morgan. Morgan comme demain ou comme
demain
le matin.
Allemand, ouais. D'accord.
Ok, bah merci beaucoup Francine.
Moi je trouve que Charles fait très bien le contrôleur et j'ai cru que j'étais dans le TGV.
J'ai dit mais sortez les tickets. Alors le thème aujourd'hui donc, c'était la colère. On va rapidement donc, passer comme passer les plans on va dire.
Je pense que ça va être une colère sourde.
Oui, une sourde, froide. Peut-être que... Alors ça Aristote disait la colère est nécessaire à condition de pouvoir la maîtriser. C'est bien mieux, c'est bien beau mais nous connaissons tous hein, ces petits moments de contrariété. Bon on régule et tout va mieux. La colère, parfois déclenchée par une broutille, hein, un objet qui ne fonctionne pas, un embouteillage, des réseaux sociaux au volant de sa voiture, la colère est à chaque coin de rue. Comment se fait-il que nous soyons si prompts à hausser le ton, à monter sur nos grands chevaux, à péter un plomb, à roger son frein, à entrer dans une colère noire ou à être à vert de rage? Et là, transition. C'est à Angèle d'enchaîner, parce que vert de rage, on va parler de Hulk, bien sûr.
Parmi les figures de super-héros, Hulk occupe une place singulière. Il n'incarne pas seulement une puissance physique exceptionnelle, mais la matérialisation même d'une émotion humaine fondamentale, la colère. Créé en 1962 par Stan Lee et Jack Kirby, le personnage s'inscrit dès l'origine dans une tradition littéraire héritée de Dr. Jekyll ou Mr. Hyde, ou de Frankenstein, celle du savant dont l'expérience scientifique révèle un double monstrueux. Toutefois, au fil des décennies, les comics Marvel ont transformé cette dualité simple en une exploration complexe de la psyché humaine, faisant de Hulk une métaphore de la fragmentation intérieure et du traumatisme. L'origine du personnage est connue. Bruce Banner, physicien brillant mais émotionnellement fragile, est exposé à une explosion de radiation gamma. Cette explosion déclenche une transformation incontrôlée. Lorsqu'il subit un stress intense ou une montée de colère, son corps devient celui de Hulk, une entité dotée d'une force potentiellement illimitée. Mais très vite, les auteurs dépassent la causalité scientifique pour proposer une lecture psychologique. Hulk ne naît pas seulement de la radiation, il est l'incarnation d'une rage refoulée issue des traumatismes d'enfance de Banner. Les comics développent ainsi l'idée que Hulk est une personnalité autonome, voire que Banner abrite plusieurs alters. La colère devient alors non pas un simple déclencheur biologique, mais une dimension constitutive de l'identité, révélant les tensions entre refoulement, violence et survie psychique. Cette complexité apparaît dans les multiples incarnations de Hulk, souvent associées à des couleurs différentes. Le Hulk vert, le plus célèbre, représente la forme dite sauvage, une colère instinctive, presque enfantine, où l'émotion brute domine toute rationalité. Le Hulk gris, connu sous le nom de Joey Fixit, incarne au contraire une colère plus froide, cynique et calculatrice. Il ne détruit pas par explosion émotionnelle, mais par stratégie et intérêt personnel. Le Hulk professeur, fusion entre Banner et Hulk, symbolise une tentative d'intégration. La colère ne disparaît pas, mais elle est mise en équilibre avec intelligence. D'autres formes plus sombres, comme le Devil Hulk ou certaines versions noires, incarnent une rage encore plus profonde, parfois présentée comme une force protectrice devenue monstrueuse ou comme la part la plus obscure de l'inconscient de Banner. Ainsi, les couleurs de Hulk ne correspondent pas à un niveau de colère mesurable, mais à des modalités psychologiques différentes de cette émotion. Rage enfantine, colère froide, violence stratégique, fureur destructrice ou tentative de maîtrise. Le cas du Red Hulk, qui est en réalité le général Thaddeus Ross, confirme cette logique. Sa colère n'est pas celle d'un traumatisé, mais celle d'une figure autoritaire, militaire, obsédée par le contrôle et la domination. Sa forme rouge ne signifie donc pas qu'il est plus en colère que Hulk, mais que sa rage est d'une autre nature, plus consciente, plus politique, moins liée à la dissociation psychique. Les différents comics ont ensuite développé d'autres couleurs pour symboliser les variations d'identité ou d'origine, comme le Hulk bleu, marron, blanc ou d'autres teintes qui sont souvent liées à des contextes narratifs spéciaux ou des capacités différentes, cosmiques, dimensionnelles, etc., et non à un niveau plus fort de colère standardisée. Dans le Marvel Cinematic Universe, ou le MCU, cette richesse psychologique est en grande partie simplifiée. La transformation reste liée à la colère, mais le personnage est moins fragmenté. La célèbre phrase « Je suis toujours en colère » suggère que Banner ne cherche plus à supprimer cette émotion, mais à l'intégrer. L'évolution vers le Smart Hulk, où intelligence et force cohabitent, propose une lecture optimiste. La colère peut être canalisée et devenir une ressource plutôt qu'une menace. C'est d'ailleurs ce que l'on constate dans Avengers Endgame, où Banner et Hulk fusionnent, associant ainsi psychique et grandeur intellectuelle. Là où les comics mettent en scène une lutte intérieure permanente et parfois tragique, le cinéma offre une vision plus symbolique et plus accessible. Hulk devient l'image d'une émotion puissante que l'on peut apprendre à gérer. Si Hulk demeure la figure centrale de la colère humaine et émotionnelle, d'autres personnages incarnent des formes différentes de rage. Le Void, double maléfique de Sentry, représente un nihilisme cosmique et destructeur, détaché de l'humanité. Ghost Rider incarne une colère morale et éternelle. Wolverine, une rage sourde et continue, et Thanos, une colère froide et idéologique. Comparé à Hulk, ces personnages ne hurlent pas, ils jugent, punissent ou effacent. Hulk reste la colère vécue, humaine, explosive, mais porteuse de protection et de traumatisme. Au final, Hulk n'est pas simplement un héros colérique, il est une allégorie de la colère humaine dans toute sa complexité. Force vitale, mécanisme de défense, traumatisme non résolu, mais aussi possibilité d'intégration. Les comics en font une exploration profonde de la fragmentation identitaire, tandis que le MCU privilégie une lecture métaphorique du contrôle émotionnel. Dans les deux cas, Hulk rappelle que la colère n'est jamais univoque, elle peut détruire, protéger, libérer ou aliéner, selon la manière dont elle est vécue et comprise.
Bravo,
bravo, bravo.
Belle rentrée dans notre émission.
Hein. Ah oui, ça c'est pas mal. Bravo, bravo Angèle, merci beaucoup.
Moi j'avais lu, puisque vous parliez déjà intelligence et colère dans la même phrase. Moi j'ai souvent envie de péter les genoux des gens quand je suis en colère. L'intelligence c'est un peu loin. Par contre, il y a des études scientifiques qui prouvent que quand on a mal et qu'on est en colère, ça baisse la douleur. Ils ont fait des tests avec les étudiants en mettant les mains dans de la glace. Et ben, on supporte mieux quand on dit. Zut, 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 plutôt que si on dit rien. Enfin bref, plus on lâche des gros mots, ça atténue la douleur.
On va en dire l'inquisition alors. Hein,
c'est... Parce que toi, quand t'es en colère, tu fais zut, zut, zut.
Non, mais moi, je dis putain d'Adèle, comme ça, alors, elle m'a jamais rien fait. Mais...
Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Oui, on a... Oui, on peut parler un petit peu du travail de Charles quand même. Enfin, c'est la toute nouveauté. Donc ciel de Ben.
Ah, je suis extrêmement gêné parce que là, on a.
Arrête.
Un artiste mondialement connu sur 5 continents, un artiste régionalement connu dans son quartier. Alors oui, tu vois la grande différence, quoi. C'est vrai.
Mais ça ne m'empêche pas d'avoir l'intégrale Charles Lancé.
Oui, c'est vrai, oui.
Et moi, je vois pas la différence.
Voilà, donc c'est Charles Lancé. Donc édition Nerilla, c'est sa édition. Ruez-vous dessus, hein. C'est quelque de dire, une anecdote. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que ça va, une anecdote sur des bennes, c'est ça, autour d'eux?
En fait, si tu veux, c'est un recueil de légendes urbaines, d'histoires qu'on racontait sur le transporteur aérien qui était le plus long d'Europe, si tu veux, qui partait de Maxéville, qui allait jusque Dombasle, et qui a fait la fortune d'un Solvay, parce que pour faire la soude, il faut du calcaire qui est dans la forêt de Haye et du sel qui est à Dombasle. Voilà.
On l'a ramené.
Donc,
et c'était des
tous ceux qui sont nés avant 1884, savent qu'il y avait un transporteur aérien qui contournait Nancy, et tous les gosses ont regardé ça et on rêvait de monter dedans pour faire ce parcours. Et il y avait une légende urbaine qui disait que pendant la guerre, il y avait un soldat allemand qui avait été trouvé dans les bennes. Et j'ai fait la connaissance de monsieur Siméon, qui était le dernier directeur des carrières Solvay, qui m'a dit, mais effectivement, c'est une histoire vraie, il y a eu pendant la guerre, un soldat allemand qui a été coincé dans les bennes. Alors partant de là, je me dis, mais comment un mec peut être coincé dans les bennes? Parce que en plus, la malice populaire avait rajouté que si c'était coincé là-dedans, c'était évidemment pour une histoire de femme, forcément. Hein, bon. Oui. Donc, comment un mec pour une histoire de femme peut être coincé dans des bennes? Voilà. Donc je raconte cette histoire-là, et puis d'autres jumelés, d'autres légendes...
Sur un malentendu.
Non, mais...
c'est passé.
Parce que la question, c'est comment elle en est sortie des bennes.
Voilà, donc vous avez... Achetez le bouquin aux éditions Nereia.
C'est tout frais. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Je dois malheureusement.
Ah, moi, je voudrais livrer un juron que j'ai entendu en Corse. Il y avait une bande d'étudiants à côté de moi qui s'engueulaient et il y en a un qui a dit à l'autre ta gueule jusqu'à demain.
Ah bah voilà.
Et ça m'a fait hurler de rire.
C'est pour me faire taire, c'est ça. Bah, je me tairai pas. C'est désormais la fin de cette émission. Merci à nos chroniqueurs. Merci Jean-Luc. Merci à notre invité Frédéric Boyle-Loire de nous avoir supporté aussi pendant cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une autre émission, bien entendu, avec un autre thème. Ce ne sera pas moi qui sera à l'accueil. Mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur RCN 90.7, le son des bulles, écouter les replays. Retrouvez-nous également sur le Facebook. Tous les livres ici présents, celui donc de Frédéric et des autres Frédéric, seront mis sur la page Facebook. Afin que ça fait droit d'auteur, ça fait du bien aussi. À bientôt et tous. Et Charles, bonne chance pour le bouquin. À bientôt à tous.
À bientôt, merci.
Ciao, ciao.